autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation La tête dans les étoiles aujourd'hui. Sur les traces d'un formidable chasseur d'astéroïdes, l'astronome amateur Michel Horry. À son actif, la découverte de plus de 200 astéroïdes et de 2 comètes vertigineux. Mais comment traquer tous ces petits corps célestes, ces mini-planètes, ces cailloux dans notre système solaire? Pourquoi les nommer Coluche, Roger Federer, Polnareff ou Michel Horry, qui lui-même en a déjà nommé plus d'une centaine? Il nous racontera comment et pourquoi garder les yeux au ciel, s'émerveiller et faire la différence entre une planète, une comète, un astéroïde, une météorite, autant d'objets célestes qui pourraient bien nous tomber sur la tête et qui ont tant à nous apprendre sur notre univers. Autour de la question pourquoi chasser, traquer et nommer les astéroïdes, bienvenue. Bonjour Michel Horry.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de la radio suisse romande à Lausanne, car vous vivez sous le ciel du Jura suisse, où vous êtes professeur de physique et surtout un formidable astronome amateur, enfin amateur, c'est vite dit, pour quelqu'un qui a monté l'observatoire jurassien de Vic. Je préfère vous présenter Michel Horry comme chasseur d'astéroïdes, pour reprendre le titre de l'ouvrage que vous venez de publier aux éditions du Pommier, l'un des derniers Mohicans célestes, dites-vous aussi, dont la vie est rythmée par l'observation du ciel. Vous avez, au fil de toutes ces années, Michel Horry, découvert, répertorié, nommé des centaines d'objets célestes et même fait assez rarissime, découvert une comète de la famille de Jupiter, la comète périodique 304P Horry. Il y a également tout là-haut un astéroïde qui porte votre nom. C'est l'astéroïde 67 979 Michel Horry. Ça fait quoi d'avoir découvert et nommé tant d'objets célestes?
Ben évidemment, premièrement, ça me relie à ce petit monde. C'est, je crois, fondamental. Moi, le lien avec le ciel, pour moi, est assez fondamental. Et donc, je passe mon temps à... aussi bien dans mon enseignement au gymnase que par ma passion, finalement, d'essayer de recréer ce pont entre le ciel et la terre qui a toujours existé, sauf, je dirais, aujourd'hui. Et effectivement, une comète à son nom, c'est l'astéroïde, c'est plus courant, on va dire. C'est plus courant parce que comme on en trouve beaucoup, on se les échange parce qu'on peut pas se nommer soi-même son astéroïde. Donc, on nomme le copain qui vous nomme. Les comètes, c'est autre chose. Moi, quand j'ai découvert ma comète, là, oui. Je dois dire que j'étais une semaine en orbite et pendant une semaine, là où j'enseigne, j'ai parlé des comètes pendant une semaine. Donc je n'ai pas demandé de faire ça, mais c'est venu tout seul. Pendant une semaine, j'ai fait des cours sur les comètes, je leur parlais comètes.
Vous étiez comète. Quelle est la différence, on va commencer par ça justement, entre tous ces objets célestes, planètes, comètes, astéroïdes, voire météorites. En tout cas, entre comètes et astéroïdes, quelle est la différence?
Alors depuis 2006, donc les astronomes se sont réunis à Prague pour décider le sort de Pluton dans le fond, mais enfin surtout ce qu'est une planète dans le système solaire. Et donc dans le système solaire, il y a 2 types de corps dans le fond, si on résume. Il y a les planètes majeures qui vont de Mercure à Neptune, et puis les planètes mineures, ou en français on dit plutôt petites planètes, qui sont les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes et les comètes, aujourd'hui, comme on a vu leur surface, qu'on connaît un petit peu leur composition pour certains, dans le fond, il y a une uniformité de ce monde. C'est un monde commun. Ces objets, si on les avait découverts avec des sondes spatiales, dans le fond, il n'y aurait qu'une appellation pour tous ces objets. Tous des astéroïdes ou tous des comètes.
Toutes les comètes et tous les astéroïdes.
Les noms sont historiques. Le mot astéroïde vient d'Herschel, qui a découvert la planète Uranus au XVIIIe siècle et qui a vu, et tous les astronomes le voient aujourd'hui, que dans le fond, un astéroïde, quand on le photographie, ça ressemble à une étoile. Et donc, le mot astéroïde vient d'un mot qui veut dire comme une étoile.
Comme une
d'aspect
étoile,
stellaire,
c'est ça.
D'aspect stellaire. Donc, c'est vrai que c'est un point comme une étoile sur une photo. Par contre, le mot comète vient, évidemment, les comètes sont vues depuis bien plus haute antiquité. Les astéroïdes, le premier en 1801, tandis que les comètes, on les a vues depuis que l'homme existe, dans le fond. Pourquoi est-ce qu'on les voit? Parce que dans le fond, on ne voit pas la surface qui réfléchit la lumière du soleil. On voit la diffusion de la lumière dans cette immense queue de poussière et de gaz. Et donc, donc cette coma vient d'un mot grec qui veut dire chevelure, parce qu'on peut imaginer une dame avec une longue chevelure.
La chevelure de la comète. Vous en avez découvert deux, ce qui est tout de même assez étonnant. Et vous avez découvert, alors là, plus de 200 astéroïdes à votre actif. Allez, 170 906 Coluche, 23 00 975 Roger Federer, et puis, puisque vous aimez bien le vin, 262 705 Vaughan Romanet, et j'en passe. Vous avez même construit l'observatoire astronomique jurassien à Vic. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette quête, à cette chasse des astéroïdes?
Donc on a installé un grand télescope de 60 cm à Vic. Ce télescope, la partie mobile fait quand même une tonne 2, donc c'est quand même un gros instrument. Et puis moi, j'ai toujours voulu faire des photographies avec ce télescope, donc on avait acheté une caméra électronique pour ce télescope. Mais dans le fond, quand on a installé ce télescope, j'avais préparé plutôt un programme d'observation des galaxies, parce que je trouve ces mondes merveilleux. Comment on a su que les galaxies étaient si lointaines? Comment on a procédé? Je trouve ça, pour moi, c'est magnifique, les travaux des Hubble, des Sandage, etc. Et pour moi, c'était, dans le fond, les objets les plus mystérieux et les plus magnifiques, les plus majestueux dans l'univers. Et puis finalement, comme on a eu des problèmes avec ce télescope au départ, j'ai dû solutionner en partie ces problèmes et je suis allé faire la popote des observatoires de France et de Navarre qui observaient le ciel avec des caméras et autres. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des amateurs qui cherchaient à la fois des supernovas et des comètes et qui en trouvaient. Et je me suis dit que c'était incroyable et j'ai commencé la même chose, parce qu'on trouve plus facilement des astéroïdes que des supernovas. Et donc j'ai commencé d'observer des astéroïdes, de fil en aiguille, j'ai pas arrêté depuis l'an 2000.
D'observer les astéroïdes. Autour de la question, pourquoi justement faire la chasse aux astéroïdes et comment les nommer? Je propose un nouvel éclairage, Michel Horry, éclairage astronomique lui aussi. C'est celui du planétologue Sylvain Boulet, que vous connaissez, que nos auditeurs connaissent aussi, puisqu'il est l'un des membres du jury de notre concours « Pourquoi viser la Lune ?». Sylvain Boulet est aussi vice-président de l'Uranoscope de France et il a lui aussi tout là-haut son astéroïde 275-786 Boulet.
Bon, c'est pas Michel qui me l'a offert, mais ça aurait pu. Michel a offert un astéroïde à Christian Bourdeil, qui est le président fondateur de l'Uranoscope de France. C'est quelque chose d'effectivement super, enfin, de pouvoir effectivement comme ça donner des astéroïdes. Et voilà, et moi j'ai eu la chance d'avoir que François Collat, qui est un astronome de l'Observatoire de Paris. Et puis un jour, j'étais à Washington et puis il m'a fait la surprise par téléconférence de m'offrir un petit astéroïde. Alors, pas m'offrir parce qu'il n'est pas à moi, il n'y a pas de corps, mais effectivement, j'ai un petit caillou de 700 mètres de diamètre qui est à mon nom, donc j'en suis très content. Merci François.
Et il est où ce petit caillou?
Alors, il s'appelle
Sylvain Boulet?
Non, Boulet tout court. Il y a un boulet dans l'espace, oui, voilà, c'est fait, on peut le dire. Mais ce petit boulet, il est entre Mars et Jupiter, rien d'original, parce que quand même, la majorité des astéroïdes tournent entre Mars et Jupiter. Il a une orbite un peu excentrique, il se rapproche un peu de Mars, donc ça, je suis content, je me rapproche de Mars. Et voilà, donc ça, c'est vrai que c'était un plaisir d'avoir ce petit caillou.
Vous voulez réagir, Michel Horry, à ce plaisir de Sylvain Boulet d'être, qu'il y ait un boulet dans l'espace?
Oui, le plaisir est partagé parce que c'est la fin du processus, nommer un objet, je trouve. Et donc, si on peut créer un moment de rencontre et de plaisir, je trouve que c'est vraiment une belle fin.
Alors pourquoi est-ce justement c'est si important de les nommer? On va voir aussi comment on les nomme. Pourquoi c'est important de les nommer de ce côté-ci de la planète et du côté francophone de la planète?
Alors, les astéroïdes, d'abord, ils reçoivent des noms de code provisoire. Et puis, une fois que leur orbite est suffisamment contrainte, après des dizaines d'années d'observation, plusieurs années d'observation, je m'excuse, ils sont numérotés. Donc, ils entrent dans une liste officielle. Il y en a 520 000 qui sont numérotés. Et ça les classifie. Le nom est pour les identifier, parce que personne ne sait que l'astéroïde 42113, c'est l'astéroïde Jura, mais si on dit l'astéroïde Jura, tout le monde va bien identifier qu'il a quelque chose à voir avec le Jura.
Je rappelle que vous nous parlez depuis le Jura Suisse. Continuez,
voilà.
Michel Horry.
Voilà, exactement. Donc, le nom est pour l'identifier. Et il se trouve que dans le ciel, les découvreurs qui découvrent des cratères sur une planète, une nouvelle étoile, une nouvelle galaxie ou autre, ou une supernova, ne peuvent pas les baptiser. La tradition perdure pour les astéroïdes parce qu'elle s'est faite au départ et la tradition perdure et je trouve que c'est une belle tradition parce que c'est comme je disais avant, ça boucle la boucle. Alors pourquoi nommer ces astéroïdes? Ben déjà, un, pour les identifier. Mm-hmm. Et pourquoi mettre des noms francophones? Ben oui, parce que la majorité de ces 530 000 astéroïdes ont été découverts par des Américains et des Anglo-Saxons. Donc ils portent des noms anglo-saxons. Et donc, on est quelques-uns à les nommer avec des noms francophones.
Donc continuez, surtout vous en avez nommé beaucoup, mais vous n'êtes pas le seul. Hein. Vous nous faites dans cet ouvrage Chasseurs d'astéroïdes partager les aventures des autres chasseurs d'astéroïdes, des autres Mohicans célestes, comme vous le dites joliment. On va revenir sur ce terme parce que vous êtes un peu les derniers Indiens hein, à continuer à observer le ciel étoilé quand il y a encore de la nuit, quand on peut encore le faire. Mais vous faites le portrait notamment du recordman absolu de la chasse aux astéroïdes. Il s'appelle Astéroïdman. Vous appelé Astéroïdman. Combien il en a découvert?
3 000.
Plus de 3 000 à son palmarès. Mmh. C'est fou quand même.
Oui, voilà, c'est un professionnel engagé par l'Observatoire du ciel austral européen. Il a découvert des astéroïdes en Europe, mais aussi en particulier au Chili, à La Silla, avec des télescopes de très grande ouverture, dites caméras de Schmidt. Et donc, c'était sur des plaques photo. Et oui, ce monsieur, je l'ai rencontré en 2010 à Vichnan. Il s'appelle Eric Elst. C'est un flamand, mais qui parle parfaitement français. Et c'était une belle rencontre parce que il nomme des astéroïdes par dizaines, hein, donc il en a nommé des centaines et des centaines, et il voulait nommer un astéroïde Jura. Et il se trouve que je venais de lui couper la priorité. Mais voilà, et on s'est rencontrés.
Vous l'aviez déjà fait, vous l'aviez déjà trouvé et nommé.
Je venais de le faire quelques mois auparavant. Et donc, il s'est retranché parce qu'il avait visité le Jura suisse, le Jura français. Et donc, il s'est retranché sur le mot Jura France. Et donc, on a fait une belle réunion des deux Juras à Vichnan, en Croatie, entre Jura et Jura France. C'était un moment émouvant parce qu'on est les deux chasseurs d'astéroïdes. Dans l'âme, dans le fond. Pas à la même époque, pas au même âge, mais dans le fond, le ciel nous réunit. Et le Jura aussi.
Autour de la question, pourquoi se réunir justement sous le ciel étoilé? Pourquoi chasser et comment nommer les astéroïdes? Je propose un nouvel éclairage de l'astrophysicien Roland Lehoux, qui lui aussi, comme vous, Michel Horry, comme Astéroïdman, a la chance et l'honneur d'avoir un astéroïde nommé Lehoux. C'est l'astéroïde 31387.
C'est un grand honneur, un grand plaisir, effectivement, d'avoir un astéroïde auquel son nom est attaché. Et du coup, d'avoir un caillou qui tourne, un gros caillou, 3,5 km de diamètre, semble-t-il, qui tourne autour du Soleil. Alors, il est quelque part entre Mars et Jupiter. Alors, évidemment, c'est les astéroïdes les plus... Je ne vais pas dire les plus intéressants, tous sont intéressants, mais en tout cas ceux qui nous touchent plus peut-être sur Terre, c'est quand on pense à l'astéroïde qui est tombé sur Terre à l'époque des dinosaures, qui a mis fin, comme on dit, au règne des dinosaures. Ce sont ces fameux géocroiseurs. Alors voilà, j'aimerais savoir si Michel Horry a des dernières nouvelles à nous raconter sur les géocroiseurs.
Quelle nouvelle avez-vous des géocroiseurs, Michel Horry? D'abord, qu'est-ce que c'est les géocroiseurs? C'est ces gros astéroïdes énormes qui pourraient nous tomber sur la tête? Et qui sont très proches de nous?
Alors, c'est pas forcément, ils sont pas forcément très gros. Comme ils passent très proches, donc quand ils passent très proches, s'ils sont petits, on les détecte aussi. Enfin, on en manque beaucoup. Mais moi, j'en ai découvert 4. Et au Maroc, avec ma collègue française Claudine Riner, elle en a découvert un en 2017. Donc, je vais parler de celui-là. C'est un des quelques-uns. On en a découvert 5 au Maroc. Et j'en ai découvert 3 sur ces 5, elle en a découvert 2 autres. Et elle a découvert le plus intéressant, parce qu'elle l'a découvert en novembre 2017. Mm-hmm. Pour l'instant, il n'a pas un numéro, il n'a qu'un nom provisoire qui est 2017-YE5, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais il se trouve qu'après novembre 2017, quand elle l'a découvert, l'été suivant, donc en 2018, il passait proche de la Terre, parce que c'est un astéroïde géocroiseur. Et il se trouve que une armada de radiotélescopes américains à Arecibo, à Porto Rico, à Green Bank et à Goldstone, en Californie. Mmh. Ces trois grandes antennes ont envoyé des ondes électromagnétiques radar sur cet astéroïde, et en mesurant l'écho par effet Doppler, le fait que l'astéroïde tourne, les ondes ne sont pas émises de la même manière, parce que la vitesse relative de l'astéroïde par rapport à vos ondes, il y en a une partie qui s'approche, une partie qui s'éloigne, et donc par effet radar, on peut recréer le volume de l'astéroïde. Finalement, on a une image radar de cet objet. Et cet objet, découvert au Maroc, à l'observatoire de Louis Kaimden, est un des plus gros astéroïdes géocroiseurs, binaire. Donc il a deux morceaux de 900 mètres de diamètre. C'est 900 mètres pour un astéroïde géocroiseur, c'est déjà
c'est
beaucoup.
C'est énorme, oui.
Et donc celui-là a deux lobes de 900 mètres. Et c'est d'autant plus intéressant, cet objet est un des géocroiseurs les plus intéressants. Pourquoi ? Pas parce qu'il est binaire, mais parce que les deux morceaux sont d'égale masse. Et ça, c'est relativement peu fréquent. Et dynamiquement, on comprend plus qu'il y ait une petite masse à côté d'une grosse, mais deux grosses masses, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Et ce qui est sûr aussi, c'est que les deux objets ont un albédo, donc c'est-à-dire une surface réfléchissante qui est différente. Donc semble-t-il, c'est pas un même morceau qui s'est scindé.
Ce seraient deux morceaux qui se seraient collés.
Et donc, cette histoire a fait quand même l'office d'un communiqué de presse du Jet Propulsion Laboratory à l'été passé sur un astéroïde, petit astéroïde qu'on avait découvert au Maroc.
Découvert à l'observatoire de Kemden. Magnifique histoire et qui illustre aussi l'importance de tous les astronomes amateurs. Enfin, quand je dis amateur pour parler de vous et de vos collègues, bon, on dit amateur parce que vous ne gagnez pas d'argent, mais autrement, vous y consacrez toute votre vie. Vous êtes bien plus que des amateurs.
Ça dure dans le temps, c'est clair, mais il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Moi, j'ai aussi une famille. J'ai une profession. Si vous dormez pas la nuit, c'est juste plus possible. Au départ, je passais des nuits blanches. Pourquoi ? Parce que les processus n'étaient pas automatisés, tout se faisait manuellement, donc il fallait rester là. Et donc je passais des parties de nuit. Aujourd'hui, au Maroc, je dirais que c'est un petit peu l'usine à gaz, parce que c'est un peu la bricole. On a fait avec des moyens qui sont parfois dérisoires.
On va y revenir,
ça marche quand même bien, mais ce qu'il faut dire, c'est, ça observe en mode automatique. Et donc, il n'y a pas besoin d'être sur place, il n'y a pas besoin d'être réveillé, il y a des alarmes, il y a des alertes, si ça se couvre, la coupole se ferme, enfin, etc.
Donc vous pouvez programmer...
C'est beaucoup moins prenant question temps, mais par contre c'est beaucoup plus efficient au niveau détection.
Voilà pourquoi aussi on en détecte tant de ces astéroïdes. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur ? Est-ce qu'ils pourraient nous tomber sur la tête, Michel Horry ?
Mais c'est une des grandes découvertes, je dirais, des décennies passées, c'est que ces objets ont heurté la Terre. L'ont heurté constamment et la heurteront encore. La question n'est pas de savoir tellement quand un gros objet amènera une extinction comme c'est arrivé plusieurs fois, notamment il y a 65 millions d'années, parce qu'il faut un kilomètre d'un objet d'un kilomètre fait une catastrophe qui se répand sur toute la planète.
Elle un objet d'un kilomètre qui tombe.
Un kilomètre, ça suffit, parce que les vitesses sont tellement grandes, plusieurs dizaines de kilomètres secondes, ça suffit pour faire des dégâts dans l'atmosphère sur toute la planète. Voilà. Les dégâts dans le sol sont continentaux, mais sur un continent, mais donc l'astéroïde par exemple des dinosaures, lui, il faisait 10 kilomètres, mais les dégâts dans l'atmosphère se font sur toute la planète pour deux raisons. Parce que ça envoie des matériaux terrestres, donc ça assombrit l'atmosphère, mais ça envoie aussi, par exemple, des gaz à effet de serre. Donc ça peut refroidir parce que ça opacifie l'atmosphère avec des poussières, mais ça peut aussi envoyer des gaz à effet de serre et augmenter l'effet de serre. Donc ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas forcément simples et uniques. Une fois, ça peut faire d'abord un refroidissement puis un réchauffement. Enfin, ce n'est pas linéaire, quoi.
D'où l'importance de les observer, de les détecter pour pouvoir parfois peut-être orienter leur trajectoire. Est-ce qu'on est moins à la merci des astéroïdes qu'on peut les observer ?
L'idée, le gros comme les dinosaures, on ne pourra rien faire.
Bien sûr.
Par contre, des plus petits, on pourrait faire quelque chose, et les plus petits sont plus fréquents. Voilà. Donc, vous n'empêchez pas les scientifiques de les détecter, de détecter ces objets, et eux vous diront à tel moment, dans tel jour, telle probabilité d'impact à tel endroit. Vous ne pourrez pas les empêcher de faire ce travail, puisque c'est dans la nature, dans le fond, des scientifiques de rechercher, etc. Ils cartographient ces objets, il y a des surveys automatiques du ciel de ces objets, et donc on aura de toute façon l'information que quand un de ces petits objets arrivera sur Terre.
Avant
et donc,
oui.
Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et si l'objet fait des dégâts, je dirais, on est sûr qu'il fera des dégâts, parce que la taille est modeste, sur un rayon de 200 km, si on peut évacuer avant, c'est quand même mieux.
Ça, c'est sûr, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Allez, on continue avec vous, Michel Horry, à traquer tous les astéroïdes et à les nommer. 99-824, ça doit vous dire quelque chose. C'est Paul Naref qui vous cite d'ailleurs dans son autobiographie En se demandant sous quelle étoile suis-je né. Morceau à écouter tout de suite sur RFI.
Sous quelle étoile suis-je né? J'en suis encore me le demander.
RFI, sous quelle étoile suis-je né? Paul Naref qui a aussi son astéroïde tout là-haut, et c'est vous qui l'avez découvert et nommé Paul Naref, Michel Horry.
Oui, c'est ça. Un jour, je l'ai entendu sur Antenne 2 à l'époque. Il faisait peu d'interviews, donc il a fait une interview et j'ai compris que c'était un vrai amoureux du ciel, quoi. Et donc voilà.
Et donc voilà, mais vous avez aussi nommé cinq chanteurs français qui ont, grâce à vous, la chance d'avoir dans le ciel leur astéroïde. Vous aimez bien la chanson française et vous en faites profiter.
En fait, je mets des francophones, des non-francophones et des francophones. Je suis actuellement en train d'essayer de nommer un astéroïde Francophonia. Donc voilà, je suis très sensible à la langue française parce que, on est de plus en plus dans un monde mondialisé où la langue française a de moins en moins d'importance. Et je pense que c'est important qu'il y ait des bouts de francophonie ici et ailleurs.
Ici et ailleurs, et jusque tout là-haut, on sent bien qu'il y a de l'émerveillement toujours, de la curiosité bien sûr dans votre quête, dont celle de tous les chasseurs d'astéroïdes, qu'ils soient astronomes amateurs ou astrophysiciens confirmés, comme Françoise Combes, professeure au Collège de France. Elle est titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie. Elle était récemment notre invitée. On l'écoute.
J'étais admirative de voir toutes leurs formes, la grande variété. Parce qu'en fait, les planètes, lorsqu'il y a une certaine masse, elles sont rondes. Finalement, leur propre gravité, puis aussi la force des roches, etc. Par contre, dès qu'on est en dessous d'une certaine masse, alors on peut avoir des formes bizarres, donc des patates, des noix des cacahuètes, et donc un peu comme la comète qui avait deux boules. Et là, le dernier astéroïde assez lointain, c'était deux boules. Donc pourquoi pas 3 boules, 4 boules.
On peut tout imaginer.
Peut tout imaginer, donc c'est très amusant.
On peut vraiment tout imaginer, Michel Horry.
Tout, je sais pas. En tout cas, on pourra pas avoir des petites planètes creuses parce que la gravité est comme elle concentre, donc on pourra pas avoir un astéroïde qui est, comment dire, qui a une cavité, une grosse cavité au centre. Mais effectivement, au niveau forme, à partir de 300 km, en dessous de 300 km à peu près, les objets n'ont pas des formes rondes. Et donc, effectivement, on a des objets absolument magnifiques, quoi. Des astéroïdes binaires, des objets allongés, des objets plutôt plats. Et la nature de la surface est aussi complètement différente.
À la surface
L'apparence de l'objet. C'est-à-dire... On connaît actuellement à peu près 530 000 astéroïdes, donc qui sont numérotés. Et combien en a-t-on photographié avec une sonde qui passe par là ou qui en orbite autour de ces objets? Une quinzaine. Eh bien, il n'y en a pas deux pareils.
Ah là là, et, donc on imagine l'étendue de ces...
Le 16 ou 17e vers lequel on ira, vous pouvez faire une espèce de modèle, imaginer qu'est-ce qu'on trouvera, vous serez toujours surpris par la diversité de la nature.
Et il y en a un particulièrement étrange, de corps céleste, qui a surpris absolument tout le monde. C'est un bolide extrasolaire en forme de cigare qui a traversé notre système solaire à toute allure et qui venait d'ailleurs. Il a été repéré depuis l'observatoire d'Hawaï, c'était le 19 octobre 2017, et suscité tous les fantasmes, notamment des amateurs de science-fiction qui y ont vu un vaisseau extraterrestre. Les astrophysiciens ont polémiqué, comète ou astéroïde extrasolaire. Explication d'Olivier Sanguy, de la Cité de l'espace à Toulouse, c'était sur France Bleu.
Eh bien, Oumuamua, en hawaïen, ça veut dire le messager qui vient de loin, en quelque sorte. On lui a donné ce nom-là parce que c'est un télescope automatique situé à Hawaï qui l'a débusqué. Et il l'a débusqué en septembre 2017. Et en fait, on s'est aperçu en analysant la trajectoire de cet objet que ce n'était pas une comète comme on le pensait d'abord, qu'il venait d'en dehors de notre système solaire. Donc en fait, c'est le premier objet interstellaire qui traverse notre système solaire et dont on s'aperçoit, parce que les astronomes pensent que théoriquement ça a dû déjà se passer plusieurs fois, sauf que là on s'en rend compte. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que cet objet il traverse notre système solaire à 90 000 km/h, qu'il fait 400 mètres de long mais seulement une quarantaine de mètres de large, ce qui donne une forme un peu de baguette de pain, et que pour l'analyser avec des observations télescopiques, c'est très compliqué parce qu'il est déjà très loin. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop ce que c'est.
On ne sait pas trop ce que c'est, Oumuamua. Comète, astéroïde, on croyait savoir, finalement non. Le premier objet interstellaire reconnu à ce jour est reparti en portant ses mystères dans les confins de l'espace. Vous en pensez quoi, vous, Michel Horry, d'Oumuamua et de la polémique autour?
Bon, c'est un magnifique objet, donc je dirais deux choses en introduction. La première, c'est qu'on attendait ces messagers interstellaires de longue date, c'est la première chose, donc il y en aura d'autres, ça c'est une certitude.
L'attendait bien avant parce qu'il y en a qui passent mais qu'on n'arrivait pas à observer.
Par exemple, dans le système solaire, vous avez des millions de petits corps, que ce soit dans les réservoirs où il y a plutôt les astéroïdes, plutôt les comètes, il y a des millions de corps, mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le départ du système solaire, quand les grosses planètes se sont formées avant les petites, elles ont eu des migrations et dans le fond, elles ont éjecté l'essentiel des petits corps du système solaire. Donc ce qui reste, c'est le solde. L'essentiel est parti dans l'espace, donc c'est plus de 90% qui est parti dans l'espace. Et donc, si il se passe ça ici, dans les 4000 exoplanètes qu'on découvre, donc d'autres systèmes solaires, dans le fond, il y a certainement eu des choses identiques et des éjections de ces petits corps aussi massivement. Et donc, c'est pas étonnant qu'on en rencontre de temps en temps.
C'est la première fois qu'on en observe.
Et il est venu un peu par surprise parce que je veux pas dire qu'on ne l'attendait plus, mais la question n'était plus vraiment on cherchait pas vraiment ces objets. On savait qu'ils voulaient venir, mais comme on n'en avait pas, parce que normalement on devrait en détecter automatiquement, et comme on l'avait détecté rien, dans le fond on l'attendait plus. Et puis la deuxième chose, c'est comme il va très vite, donc il n'est pas lié gravitationnellement au Soleil parce qu'il va trop vite, et donc il a fait un aller-retour autour du Soleil, mais à une vitesse absolument prodigieuse. Et donc, dans le fond, on était un peu de court. Enfin, les astronomes professionnels étaient un peu de court avec leurs grandes armadas pour observer cet objet. Tout simplement,
il allait trop vite.
Il n'est pas resté longtemps. Non, c'est pas tellement qu'il allait trop vite, mais il n'est pas resté longtemps. Allant vite, donc il ne reste pas longtemps. Donc,
bien sûr, il traverse très vite.
En plus, c'est vers
solaire.
Le Soleil qu'il a la vitesse la plus rapide. Hein. Donc, il a fait un demi-tour autour du Soleil, puis il est reparti dans une autre direction. Alors, toute la difficulté a été avec les points orbitaux qu'on avait pris, donc avec des grands télescopes qui ont été mobilisés, hein, pour les plus grands télescopes au monde ont été mobilisés pour pister cet oiseau. L'idée, c'était de savoir si sa trajectoire était simplement due à la gravité du Soleil ou si sa trajectoire était modifiée par des éjections du dégazage par cet objet qui passe près du Soleil. Et il se trouve qu'au départ, cet objet ne semblait pas produire de coma, c'est-à-dire d'atmosphère par dégazage de matériaux volatiles, de la glace d'eau en particulier.
Pas de chevelure, derrière.
Voilà. Et donc, ça surprenait un peu parce que, si vous voulez, ce qui a été le plus éjecté et ce qui est le plus loin du Soleil actuellement, c'est justement les noyaux de comètes. Et on comprend plus facilement comment éjecter ces matériaux qui sont plus éloignés, donc plutôt glacés, donc qui donnent plutôt des comètes, que les matériaux qui sont plutôt réfractaires, donc qui ont perdu leur glace, qui sont entre Mars et Jupiter actuellement. Et donc, on s'attendait plus à détecter un objet glacé. La probabilité était plus grande. Donc, il y a des discussions là autour. Donc ça, c'était une première surprise. Mais il semble qu'au final, cet objet, sa route gravitationnelle dictée par la gravitation a quand même été un peu modifiée par des éjections gazeuses, ce qui sous-tendrait que cet objet a quand même une petite activité cométaire, et donc ce serait plutôt quand même un objet glacé, mais qui en surface, disons, il a peut-être perdu sa glace en surface, et il reste que des matériaux qui ne sont plus glacés à sa surface, donc il est recouvert à sa surface.
Donc comète ou astéroïde, on n'est pas tout à fait sûr, vous dites plutôt comète, tout de même, hein, 400 mètres de long, 40 mètres de large. En tout cas, il y a une certitude tout de même, c'est que ça n'est pas un engin extraterrestre, cet énorme cigare ou cette énorme baguette qui a traversé notre système solaire. Michel Aurore.
Alors, il y a une petite expression anglaise qui dit « Is it a rock or a rocket ?» Donc, j'ai trouvé ça très beau. Donc, est-ce que c'est une fusée ou bien un rocher ? Donc, effectivement, c'est un rocher.
C'est un rocher, c'est pas une fusée extraterrestre.
Non, c'est pas une fusée, donc il n'y a pas de doute. La polémique est venue aussi, évidemment, parce qu'il avait une forme allongée, etc. Ça interpelle aussi. Il est très long, il est à peu près 7 fois plus long que large. Donc, cette forme aussi la étonne. Mais la polémique est venue parce que l'Union Astronomique Internationale a voulu très rapidement baptiser cet objet. Donc on ne connaissait pas finalement sa nature, vraiment si c'est un astéroïde ou une comète, et on a quand même voulu le baptiser. Et donc cette précipitation a un peu énervé les gens parce que les procédures habituelles n'ont pas été respectées. Cet objet était exceptionnel, on y a fait un traitement exceptionnel et on n'a pas pris le recul nécessaire comme on fait pour les autres objets, y compris des objets extrêmement majeurs dans le système solaire.
Pour en savoir un peu plus sur l'étrange Oumuamua, donc le premier vagabond interstellaire, c'est le titre du chapitre que vous lui consacrez, Michel Horry, dans votre ouvrage « Chasseur d'astéroïdes », il suffit de vous lire. Mais j'ai envie de dire que vous êtes vous aussi, Michel Horry, un sacré vagabond des étoiles. Je vous propose un petit coup d'infini tout de suite sur RFI avec Yann Tiersen, extrait de son album Infinity. On écoute Météorite, morceau abyssal composé avec le conteur Aidan John Moffat et interprété dans le clip Météorite par l'actrice Clémence Poésie. C'est sur RFI et c'est vertigineux.
So here we are under London's glass and granite arms as they reach for the half moon. Me a blur of boldness and booze and the rust-haired polka dot breeze of you. Stand stuck to the street in cool shoes. What could possibly go wrong? What could possibly go right? We could list all the good things and list all the bad things, but if we're all just vibration, what difference does it make? My heart could be a stone. It's a sponge. It's a balloon. It's a lonely rock with a fiery tail. fallen in your atmosphere, burning up and breaking down. So let our atoms melt together, let our nuclei converge. I want you now, and your conscience can be clear. My yesterday is dead, the present's an illusion, and tomorrow's just a nightmare away. This is our story, our movie, this is our rom-com, and it ends like this. Without looking up, the girl cautiously takes the boy's hand. She steals herself, then meets his gaze. The boy smiles. The girl surrenders. They kiss. We pull away to reveal more lovers. In a long winter coat, a woman straddles a man on a wooden bench. Behind a coin-operated lavatory, two boys passionately embrace. Vague silhouettes sigh behind the steamed windows of a parked car. Two figures fumble in a phone box. There's a couple in every doorway and around every corner. Snow begins to fall.
Les météorites de Yann Tiersen et Aidan John Moffat sur RFI. Si vous en avez l'occasion, chers amis auditeurs et internautes, le clip de Météorites vaut le détour. Autour de la question pourquoi et comment chasser les astéroïdes avec vous, Michel Horry, qui est en duplex avec nous et qui en avait découvert, observé et nommé des centaines. Bon, encore faut-il pouvoir les observer. On l'a dit, vous avez, Michel Horry, avec d'autres, construit l'Observatoire Jurassien à Vic, en Suisse, où vous vivez. Vous êtes aussi à l'origine de l'Observatoire d'Oukemden dans l'Atlas marocain, le seul observatoire au nord du continent africain qui, c'est assez important pour le souligner, a été l'un des observatoires dans le monde qui a permis la découverte du plus important système d'exoplanètes connu à ce jour, le système Trappiste. Nous avons eu la chance de visiter cet observatoire, la première réserve étoilée du continent africain qui l'entoure également. C'était en octobre dernier et c'est l'éminent astrophysicien Zouaïr Ben Khaldoun, votre ami Michel Horry, qui nous a servi de guide. On l'écoute et vous réagirez ensuite.
Alors là, nous sommes sur la terrasse de la coupole de l'Institut spatial coréen et on voit en face de nous la coupole Trappiste qui a participé à la découverte donc de ce fameux système Trappiste avec ses 7 exoplanètes. C'est un télescope de 60 cm de diamètre. Le télescope a été installé en 2016. Et nous avons fait ici plus de 4 transits, c'est-à-dire c'est quand la planète passe devant l'étoile et cache une partie donc du flux. Et 4 de ces transits ont été observés ici. En fait, l'observatoire, bien avant cette date, a fait parler de lui. Il a fait plusieurs découvertes dans le domaine essentiellement des petits corps du système solaire. Mais la plus importante, effectivement, ça a été cette découverte-là.
Quelle est justement la particularité de cet observatoire d'Oukemden? C'est quand même un des rares observatoires sur le continent africain, en Afrique du Nord, à cette altitude. Ce serait quoi ça, sa particularité?
Oui, ben, nous, quand on a développé cette thématique, on ne pensait pas être les premiers, ni les meilleurs, ni les seuls. Et ce n'est certainement pas important d'être les seuls. Au contraire, plus il y a de projets comme ça, mieux c'est pour la science. Mais on a découvert effectivement que, étant donné les difficultés que vous connaissez en Afrique, en particulier, hormis l'Afrique du Sud, il n'y a en fait aucun observatoire en activité. Il y en a un en Égypte, avec un télescope plus grand, mais qui ne fonctionne pratiquement quasiment pas. On essaye de le remettre en route. Mais en termes d'observatoire professionnel qui fonctionne, c'est-à-dire qui génère des publications, qui génère des doctorats, des PhD, qui génère des stages de master, et donc réellement professionnel, je pense qu'à part l'Afrique du Sud, je n'en connais pas d'autres en Afrique.
De l'importance d'avoir un, au moins, et des observatoires sur le continent africain. Pour celui d'Oukemden, dans l'Atlas marocain, c'est vous qui en avez été, on peut le dire, un peu le déclencheur, Michel Horry, avec Zouaïr Ben Khaldoun.
Alors, ce qui a été en fait, le déclencheur, c'est que avec la Française Claudine Riner, qui a détecté en Europe aussi autant d'astéroïdes que moi, sinon plus. Donc, on s'est associés et puis on voulait faire un projet quelque part dans un site où le ciel est beaucoup plus beau. Il se trouve que le télescope de Vic a un jumeau, parce qu'il a été construit en deux exemplaires.
Celui dans le Jura.
Voilà, se trouve justement dans un centre culturel au sud de Marrakech. Donc voilà, donc je connais ce petit monde à cause de ça. Et puis c'est moi qui ai initié ce projet avec Claudine Riner, de, en fait, son télescope, de le déplacer de France à Loukaïmden. Et finalement, c'est... on a fait un site internet et on voyait l'ampleur des quantités d'observations qu'on faisait. Donc on voyait notamment les nuits d'observation qu'on faisait. Et finalement, certains groupes professionnels sont venus à Loukaïmden, par exemple les Belges et les Coréens, tout simplement parce qu'il y avait des statistiques d'observation de nuit que nous, on avait établies, simplement parce qu'on observait réellement.
Et pourquoi justement ce ciel dans lequel on pouvait faire tant de découvertes, c'est un point d'observation particulier? C'est parce que justement, il y a peut-être moins de lumière de la ville et moins de pollution lumineuse et qu'on voit mieux. Pourquoi cet emplacement-là? Pourquoi c'est si important?
Bon, en Afrique, je pense qu'il y aurait mille et un sites disponibles, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière parasite. Et il y a aussi beaucoup de régions où on a de l'altitude, parce que l'altitude, c'est aussi important. Donc il y a beaucoup de régions, mais où il y a déjà une infrastructure sur place. Voilà. Et là, derrière un groupe, donc l'université Khaled Diayat de Marrakech, finalement, voilà, il y a pas. Si on réunit tout, c'est difficile parce que il faut évidemment une liaison internet, si possible au débit, et la mettre au milieu de nulle part. À part par satellite, ce qui coûte extrêmement cher, c'est extrêmement difficile. Donc là, il y avait déjà des infrastructures sur place et une volonté de s'élargir.
Et une volonté de s'élargir de ces astrophysiciens. Il y a aussi une vraie collaboration entre donc, les astronomes amateurs que vous êtes, qui traquez les astéroïdes, les petits corps célestes, et les astronomes et astrophysiciens qui travaillent avec des énormes télescopes. Il y a un lien entre vous. Enfin, c'est vraiment une communauté qui fonctionne ensemble. Et les uns comptent sur les autres, si j'ose dire. On compte beaucoup sur les repérages et les découvertes que vous, astronomes amateurs, pouvez faire. Michel Horry.
Alors effectivement, les astronomes amateurs, effectivement, ils n'ont pas de gros moyens, mais ils ont du temps pour observer un même objet et ils sont nombreux et flexibles. Et donc ça, c'est aussi absolument important. Il y a des observations dont il n'est pas nécessaire de disposer d'un télescope d'un mètre pour le faire. Un télescope de 20 cm dans son jardin le fera très bien. Mais simplement, il faut du temps et il faut de la patience et il faut peut-être un peu humainement se trouver à côté pour régler un certain nombre de choses. Donc les professionnels, les grands télescopes sont très sollicités. Donc pour une heure d'observation, on a peut-être 10 heures demandées. Voilà, et il n'y a qu'une heure qui est attribuée. Donc ils sont extrêmement sollicités et donc les amateurs se mettent dans des niches, mais ils font un travail qui est tout à fait remarquable.
Et puis il y a aussi alors, de nombreux programmes de recherche, de sciences ouvertes, de sciences associatives, de détection auxquels vous participez. L'astronomie ouverte à tous, c'est une réalité. Comme nous le rappelait ici même Frédéric Schmitt, il est professeur à l'université Paris-Sud, Paris-Saclay, spécialiste de la géologie des surfaces planétaires, autour du programme Fripon, lancé dans toute la France pour traquer ensemble les météorites. On l'écoute.
Alors, il y a le programme Fripon, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce qui est assez incroyable, c'est que au XVIIIe siècle, on ramassait plus de météorites en France qu'aujourd'hui. Mmh. Parce que les gens étaient dehors. On voyait la chute et puis on pouvait récupérer le morceau. Et aujourd'hui, on en récupère moins. Et donc, la France s'est dotée, avec le programme Fripon, de caméras fisheye qui observent en permanence le ciel, qui permet de déterminer la trajectoire par triangulation, de savoir d'où ils viennent, et puis où est-ce qu'ils vont tomber, et d'aller organiser potentiellement la fouille. Donc évidemment, c'est extrêmement intéressant. Et surtout, ce sont donc des chutes, c'est-à-dire qu'on peut les avoir rapidement après leur chute. Alors qu'évidemment, quand il reste des milliers, des centaines de milliers d'années, en fait, on a toutes les altérations qui se font en surface de la Terre. Et du coup, ça pose problème de savoir est-ce que c'est des choses qui ont été amenées par la météorite, ou alors est-ce que c'est des choses qui sont finalement dues à l'altération terrestre. Et donc, il faut les trouver le plus rapidement possible.
Michel Horry, de l'importance de chasser les astéroïdes et de les trouver le plus rapidement possible. Vous voulez réagir à ce que vient de dire Frédéric Schmitt ?
Alors, découvrir les plus rapidement possible, c'est-à-dire ceux qu'on détecte avec le programme Fripon, si avant qu'ils entrent dans l'atmosphère, donc qu'on détecte avec le programme Fripon, si on voyait l'objet plus haut, ce serait mieux. Donc voilà.
Il faudrait mieux le détecter avant.
Ben, c'est-à-dire que si on avait ce qui se passe dans l'atmosphère et ce qu'il y a juste avant, ce serait encore mieux. Mais effectivement, pour ça, ben, il faut beaucoup de moyens d'observation. Et actuellement, la plupart des objets détectés par Fripon, premièrement, sont des trop petits objets pour détecter plus haut. Mmh. Mais l'idéal, ce serait qu'un objet plus haut détecté se fragmente, ces fragments sont observés par Fripon et qu'on retrouve les objets au sol. Et donc on aurait toute la chaîne depuis l'espace jusqu'aux cailloux sur Terre.
Ah, ce serait ça quoi, le trésor que vous attendriez, le Graal pour le chasseur d'astéroïdes que vous êtes.
L'idée du programme Fripon, c'est récolter des météorites, remonter à l'orbite et remonter à l'objet parent. Parce que souvent, ces météorites, c'est des résidus de collisions dans les astéroïdes. Voilà. Et ces morceaux dus à ces collisions, parce qu'elles sont permanentes, arrivent par hasard un jour sur Terre. Et disons, c'est de remonter au corps parent de ces météorites. Mmh. Et le problème, c'est que il y a très peu d'objets, il y en a quelques-uns, où on a à la fois exploré... mais pas directement au sol, le corps parent, et explorer l'objet issu de ce corps parent qui est au sol. Mais l'idéal, ce serait de faire une analyse physico-chimique de l'objet, donc la roche au sol, et de faire la même chose sur cet objet vient de l'astéroïde Vesta, et donc de faire une analyse in situ sur Vesta et de comparer les deux.
Est-ce que vous, Michel Horry, personnellement, vous rêveriez de pouvoir aller dans cet espace, dans ce ciel que vous ne cessez de scruter est-ce que c'est un rêve caché pour l'astronome que vous êtes ?
Au départ, effectivement, quand j'étais plus petit, j'étais passionné par les fusées, les vols dans l'espace, etc. Avec l'âge, c'est un peu différent. Je me suis rendu compte que l'espace, c'est tout sauf sympathique. C'est un milieu extrêmement hostile. Et dans le fond, voilà, on n'est bien finalement qu'à la surface d'une petite pellicule qui s'appelle la surface de la Terre. Et dans le fond, le télescope permet de faire des voyages beaucoup plus grands et les sondes spatiales nous permettent de voyager peut-être plus fortement encore, je dirais, et à moindre frais que de partir soi-même dans l'espace, parce que peut-être beaucoup de monde aimerait partir dans l'espace et c'est pas possible, on se rend bien compte que c'est pas possible. Mais mon rêve ultime à moi, ce serait qu'une sonde aille un jour, par exemple, en orbite autour de l'astéroïde Coluche. Ça, ce serait...
Il est où l'astéroïde Coluche?
Il est quelque part entre Mars et Jupiter, comme beaucoup d'autres. Mais découvrir cet astéroïde ou un autre, parce que j'en ai découvert qui sont hors de cette ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Mais découvrir visuellement, mais avec une sonde, pas de pile à terre avec des moyens terrestres, parce que c'est aussi possible aujourd'hui pour ceux qui s'approchent de nous, mais découvrir par une sonde une de ces univers finalement, parce que c'est qu'un petit point aujourd'hui, mais en fait, si on s'y approche, c'est un univers avec des failles, des montagnes, des bassins, voilà, des cratères d'impact.
J'ai envie de vous donner rendez-vous, Michel Horry, sur l'astéroïde Coluche. Hein, on ne sait jamais, on peut toujours rêver. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir été en duplex avec nous pour partager un peu de votre ciel et de votre quête. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Chasseur d'astéroïdes, passionnant de bout en bout et qui ne manque pas d'humour en plus, avec les géniales illustrations de Pitch. On ne peut pas les montrer à la radio, malheureusement, mais c'est à lire sans modération pour atteindre, qui sait, le 7e ciel. Vous revenez quand vous voulez, Michel Horry, en duplex ou en direct. Vous étiez en duplex depuis les studios de la radio suisse romande à Lausanne. Merci à Frédéric Kohler qui était sur place. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour partager ensemble de nouvelles interrogations. Merci de votre curiosité sans cesse renouvelée. Chers amis auditeurs, merci aussi de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ici sur Terre et ça nous fait chaud au cœur. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.